Marcelin Plenet, quand on écrit un livre sur l'autre amant, est-ce qu'on est le même après l'avoir écrit?
Ben certainement pas. Non, non. Évidemment, lorsqu'on décide de l'écrire, on est déjà un peu au parfum. Mais entre le moment où on décide de l'écrire et le moment où on termine, il se passe quand même beaucoup de choses. On change, on découvre des choses, on n'est plus tout à fait sur les mêmes positions. Cela dit, c'est une vieille aventure.
Hein. Est-ce que ça va changer votre vie, finalement, Maldoror?
Maldoror et les poésies, hein, parce que je sépare jamais les deux. Écoutez, moi, il y a deux monuments dans la littérature française qui ne me quitteront jamais. L'un s'inscrit à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, c'est Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Et l'autre, c'est un faux noble, le comte de Lautréamont. Absolument. Ça ne me quittera jamais. Lorsque je fais référence à ce qui me semble déterminant pour mon histoire, c'est-à-dire pour ce qui m'intéresse moi dans l'histoire des autres, Lautréamont occupe bien sûr une place primordiale.
Vous citez Sade à propos de Lautréamont, et pour vous, il y a un lien évident entre les deux ?
Évident, non. Évident, non. Encore que certaines interprétations se soient penchées pour relever les entre guillemets sadisme de Lautréamont, mais comme Sade n'a pas grand-chose à faire avec le sadisme, le lien, à mon avis, est tout à fait arbitraire et psychologique. Non, ce qui les rend comparables, c'est la sorte de manifestation radicale de chacune de ces deux œuvres. C'est-à-dire, ce qui n'est peut-être pas l'interprétation générale de Lautréamont, pour moi, ce qui est important chez Lautréamont et chez Sade, c'est une volonté féroce d'exotérisme. C'est une volonté féroce de mettre au dehors ce qui était jusqu'alors au dedans. Pour Sade, c'est évidemment flagrant, c'est tout un vocabulaire qui était un vocabulaire qui participait du privé, qui devient un vocabulaire publié, un vocabulaire public. Pour Lautréamont, c'est d'en finir avec la religiosité littéraire. Alors, chez Sade, l'humour s'inscrit dans un horizon parfois assez lointain. Chez Lautréamont, il est toujours présent. Il est toujours présent parce qu'il participe. La volonté exotérique de Lautréamont, à mon avis, participe d'une démystification, participe d'une constante démystification, jusque y compris une démystification de lui-même, démystification du roman noir à travers les chants de Maldoror, et même du roman populaire, de toute la fiction populiste de Gensu, démystification donc de toute une tradition romanesque, de complaisance romanesque dans des fictions sombres et noires et diaboliques et que sais-je. Et en un second mouvement, démystification de lui-même à travers les poésies, où il opère, dit-il, un renversement complet alors qu'il a dit le mal. Ce qu'il ne faisait pas, il va dire le bien, ce qu'il ne fait pas non plus. Donc on est dans une sorte de, avec Lautréamont, c'est ce qui est pour moi absolument superbe, on est dans une sorte d'emportement et de tourbillon, de démystification, qui fait que, évidemment, certains des commentateurs y ont laissé leur esprit. La clé de Lautréamont et son mode de démystification, c'est d'avoir joué sur tous les topos rhétoriques, systématiquement, d'avoir mis en scène toute la série des topos classiques de la rhétorique. Et notamment, dans les séries sur lesquelles les surréalistes se sont fixés, la série des beaux comme, c'est-à-dire beaux comme la rencontre fortuite d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table d'opération, eh bien, il s'agit tout simplement de faire fonctionner des topoi rhétoriques qui sont associés à la rhétorique moyenâgeuse et à ce qu'on appelle le topos du renversement. n'est-ce pas, pour le poète du Moyen Âge, dans ce type de topos de renversement, la nuit est belle comme le jour, l'eau est brillante comme le feu, et on a une série de renversements rhétoriques qui viennent donner une dimension qui prise dans la poétique traditionnelle fait jouer comme ça des éléments un peu irrationnels, mais qui, systématisés, font apparaître le caractère profondément absurde de toute règle et de toute norme appliquée à la littérature. Donc, au fond, la découverte de l'Autréame ancienne, c'est à mon avis la découverte par un jeune homme d'une des règles de la langue classique et de la langue moderne, d'une des règles du discours, et d'avoir joué cette règle jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'absurde, et de faire apparaître quelque part, et ça c'est à mon avis le génie de Lautréamont, que toute règle posée comme surdéterminante produit de l'absurdité. Et il le fait à travers les chants de Maldoror, c'est-à-dire à travers la langue emphatique, la rhétorique emphatique des chants de Maldoror, et ensuite il le refait avec les poésies de façon apparemment beaucoup plus explicite, mais avec le même effet, le même type de renversement et le même type de mise en évidence de l'absurdité de la norme établie comme surdéterminante.
Donc toutes les sources, tous ceux dont Lautréamont a pu se nourrir, finalement on s'en fiche.
Vous savez, il y a une chose que j'aime bien mettre en évidence, parce que ça me paraît définir clairement une certaine position vis-à-vis de la littérature. C'est un titre de René Char qui s'appelle « La bibliothèque est en feu ». Qu'est-ce que ça veut dire « la bibliothèque est en feu » ? Ça veut évidemment pas dire qu'on met une allumette sous la nationale ou une bombe sous la nationale. Ça veut dire tout simplement que tout homme qui commence à lire la bibliothèque la consomme. Il la brûle comme il mange les aliments, comme les aliments qu'il mange, il les brûle. Et il vit de cette consommation et de ce brûlot. Eh bien, je crois que les influences qu'un écrivain peut avoir sur un autre écrivain, ou bien elles sont vraiment consommées, et à partir de ce moment-là, elles deviennent un élément nouveau. Ou bien elles ne sont pas vraiment consommées, et à partir de ce moment-là, elles font limite à l'œuvre qui les utilise. Et en fait, en ce qui concerne Lautréamont, la seule influence explicite, le seul référent explicite littéraire, c'est évidemment Eugène Sue. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est un roman qui s'appelle L'attrait au mont, qui vient donner le pseudonyme que Isidore Ducasse choisit, et qui désigne très précisément la visée la plus directe des chants de Maldoror, c'est-à-dire le caractère débile du roman noir, le caractère débile du roman de frayeur, du roman métaphysique, et même du roman populaire. Le caractère extrêmement limité et débile d'une culture 19e-iste, essentiellement 19e-iste.
Si on s'attache un peu au thème de Lautréamont, toute cette violence qui est surtout dans les chants de Maldoror, cette violence au niveau de l'histoire, des thèmes, ces histoires de scalp, de gens coupés en morceaux. C'est un jeu ironique d'étudiants qui s'amusent avec le roman noir, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond et justement plus proche de Sade dont vous parliez tout à l'heure?
Je dirais que de ce point de vue-là, le roman noir n'est qu'un prétexte à cette violence. Je crois que tout créateur est un violent, et en tous les cas, tout créateur fait violence. Tout créateur, quelque part, fait violence, et peut-être même qu'il se fait d'abord violence à lui-même. Je crois qu'il y a une énergie, l'autréamontienne, il y a une force vitale chez Lautréamont qui participe de cette violence, qui est bien sûr portée, qui est bien sûr associée aux images propres au roman noir, mais qui est peut-être encore plus évidente dans la dans l'organisation rythmique de la phrase. C'est l'organisation rythmique de la phrase des chants de Maldoror qui est extrêmement violente. Ce sont des phrases extrêmement fortes. Et si vous suivez presque indépendamment du sens, si vous suivez la façon dont ces phrases sont rythmées, dont elles sont associées les unes aux autres, vous avez une violence encore plus grande. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le trajet plus ou moins complaisant d'un récit dont l'obscurité serait l'aboutissement. Vous êtes pris dans un mouvement et presque dans une spirale, comme dans un cyclone, qui vous entraîne à l'intérieur, d'une langue précise. Je crois que il y a chez Lautréamont, il y a chez Ducasse une façon de faire porter par son discours toute l'énergie qui est la sienne et qui est une énergie qu'on peut peut-être d'une certaine façon, mais sans analogie trop précise, rapprocher de celle de Sade, dans la mesure où c'est une énergie très violemment sexuelle, très violemment sexualisée. C'est une écriture qui est entièrement portée par la vitalité, la force et le désir, qui est presque un désir de viol. D'ailleurs, il y a plusieurs reprises, le viol apparaît à l'intérieur des chants, qui est un désir de violer ce qui est, en tous les cas, de... comment dire, de faire violence à tout ce qui serait de l'ordre de la convention, quelle qu'elle soit. Et bien évidemment, cette violence est sexuelle. Elle l'est d'un bout à l'autre. Elle l'est même lorsqu'elle ne s'exprime qu'avec une distance tout à fait humoristique sur un terrain tout à fait littéraire. Elle l'est lorsque brusquement il fait apparaître toute une brochette de littérateurs sous la rubrique des grandes têtes molles. N'est-ce pas, c'est presque une métaphore sexuelle. Ces têtes-là sont molles, la sienne ne l'est pas.